Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Vous êtes bien sur France Inter et c'est un nouvel Instant M qui démarre.
Je vais vous couper ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
Shiori Ito est face à moi. Elle a tout juste 29 ans. Très jeune, elle voulait déjà devenir journaliste à tout prix. Tout au long de son récit, elle se demandera si c'est cela, le prix à payer. Elle est issue d'un milieu modeste. Elle s'est battue pour obtenir des bourses, voyager, étudier, notamment aux États-Unis. Shiori Ito a été droguée et violée par un homme haut placé chez TBS, la télévision publique japonaise, qui lui laissait entrevoir un poste à Washington. Trou noir, cette nuit. Là, mais la scène qu'elle révèle à son réveil dans une chambre d'hôtel relève du cauchemar. Elle a osé parler, Shiori Ito. Elle est l'une des seules femmes japonaises à avoir osé le faire. Parce que la police, la justice, mais aussi les médias de son pays l'ont abandonnée, elle est devenue enquêtrice sur sa propre affaire. Son livre s'intitule « La boîte noire », récit glaçant, très documenté et très rigoureux.
L'Instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Bonjour Shiori Ito et soyez la bienvenue à Paris.
Thank you.
Merci.
2015, vous avez 26 ans. Vous décrivez votre réveil dans une chambre d'hôtel inconnue. Une violente douleur vous assaille au bas-ventre. Vous êtes nu. Il est couché sur vous, votre agresseur présumé. Il est allongé sur vous. Vous voyez son sexe sans préservatif. Vous répétez « j'ai mal » en continu. Vous vous dégagez, vous vous voyez dans la glace, le corps couvert de traces rouges et vous saignez. De cette nuit-là, vous ne vous souvenez de rien, Shiori Ito. Mais ce qui se passe au réveil et que vous racontez dans votre livre, il vous allonge de force sur le lit, il tente de reprendre sa besogne, ce sont vos mots, vous serrez les jambes de toutes vos forces, il tente de vous embrasser. Ce qui se passe au réveil, c'est déjà une tentative de viol.
Yes, I believe so,
oui.
But... In
c'est
Japan,
ce que je pense.
There is a rape law and quasi-rape.
Il faut savoir qu'au Japon, on a une loi qui régit le viol
really
et qui a la notion de quasi-viol. Or, le quasi-viol, c'est quelque chose de difficile à définir exactement. Mm-hmm. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas en mesure de se défendre. Mais si moi, j'invoque ce qui s'est passé ce soir-là, je ne peux pas dire qu'au moment où je me suis réveillée, c'est un véritable viol, mais comme il y a deux lois qui sont applicables, je ne peux pas dire exactement aussi clairement que vous que ce qui s'est passé à mon réveil relevait effectivement la notion de viol.
De viol, ou en tout cas de la tentative de viol. Lorsque vous quittez la chambre, il vous dira « c'est bon, je crois que tu as passé le test, laisse-moi au moins ton slip en souvenir ». Du viol lui-même, donc, vous n'avez aucun souvenir. En revanche, vous décrivez très précisément dans votre livre l'accueil qui vous est réservé au commissariat et l'accueil qui vous est réservé à l'hôpital. On va commencer par l'hôpital où vous dites « la gynécologue ne m'a même pas regardée ».
Et je me suis dit, de toute façon, je n'aurais pas beaucoup de soutien. Déjà, pour commencer, je ne savais pas vers quel hôpital aller. Donc, j'ai appelé le numéro d'urgence SOS Viol. Et il y avait un centre donc d'accueil d'urgence pour les cas de viol à Tokyo. Il était à 2 heures de là où je me trouvais à ce moment-là. Et il y avait une seule personne qui travaillait ce soir-là. Autant vous dire que, enfin, pour moi, c'était complètement impossible d'aller chercher cette aide-là. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point on est démunis, en fait.
Et puis, il y a le commissariat. Vous rappelez dans votre livre que dans la police japonaise, il y a seulement 8% de femmes.
Yes.
Et puis de toute façon, même s'il y a 8% de femmes, elles sont plutôt affectées à la circulation.
Oui.
Elles ne sont pas affectées au pénal ou à des cas un peu plus graves. Donc de toute façon, c'est très difficile d'avoir affaire à une enquêtrice. Le policier m'a dit de toute façon, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Ça peut pas faire l'objet d'une enquête et ça m'a énormément choquée. Plus tard, si vous voulez, en tant que journaliste, je me suis dit dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas ouvrir une enquête? Et je me rends compte que la raison pour laquelle ils évitent d'ouvrir ce genre de dossier, c'est parce que nous avons l'un des plus élevés, des taux les plus élevés, effectivement, de condamnation, 99,9%. Donc évidemment, le parquet, s'il échoue, il met à mal sa carrière. Donc pour cette raison-là, ils veulent éviter de ne pas réussir à faire condamner les gens et donc le viol, de fait, ne les intéresse pas.
Justement, hein, votre enquête, qui est une enquête journalistique sur votre propre affaire, est aussi une plongée très minutieuse sur les mécanismes de la justice au Japon. Vous l'avez écrite aussi pour que les Japonais comprennent ce système judiciaire, qu'ils le remettent en question au lieu de le subir.
Exactly. Yeah. That was my intention.
C'est exactement ça, c'était ça mon intention.
I can't say this is journalistic piece because I am writing myself.
Mais je ne peux vraiment vous dire que c'est un travail de journaliste que j'ai fait puisque c'est ma propre histoire que je raconte. Donc j'ai essayé de parler à des journalistes, j'ai essayé de saisir d'autres médias, de les mobiliser en leur disant mais cette loi qui régit le viol, elle a 110 ans au Japon. On n'a pas de système d'accompagnement, mais c'était un sujet tellement tabou, y compris pour les médias, difficile d'aborder un tel sujet. Le mot viol ne peut pas être employé dans les médias grand public. Donc c'est pour cette raison que j'ai dû me résoudre à faire les choses moi-même. Et puis deuxièmement, il y a autre chose qui est liée à mon affaire à moi. C'est-à-dire que vous savez que en l'occurrence, l'affaire a été classée en ce qui me concerne au pénal. Et on a vu que c'était le responsable de l'équipe des enquêtes policières, donc à très haut niveau, qui a demandé à ce que cette affaire soit classée. Et c'est de l'inconnu. On n'avait jamais vu ça dans notre pays, ce genre d'intervention pour interrompre une procédure. Alors je ne sais pas, est-ce que des gens puissants ont été impliqués ou pas dans cette décision? J'ai toujours pas de réponse à ce jour. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ça a compliqué beaucoup la couverture de cette affaire. Et pour les journalistes japonais, de toute façon, en ce qui concerne leur réaction à mon affaire que vous évoquez, eh bien, une fois que l'affaire a été classée et que, effectivement, le parquet a dit on laisse tomber, eh bien, on a une réponse officielle. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus très possible de continuer à mener une enquête. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la boîte noire. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'on avait quand même des preuves, l'ADN. Il y a aussi un chauffeur de taxi qui m'a vu, qui m'a prise à bord au moment où j'arrivais à l'hôtel. On m'a littéralement jeté en dehors du véhicule à l'arrivée à l'hôtel. Il y avait des caméras de vidéosurveillance. Il y en avait des preves et beaucoup. Et pourtant, je pense qu'il y aurait eu matière à poursuivre effectivement l'enquête, mais l'affaire a été abandonnée. Nous ne savons toujours pas pourquoi. Malheureusement, enfin, je pense que c'est un peu le travail de journaliste, justement, de comprendre aujourd'hui comment les choses ont pu se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui manquait dans cette affaire? Sinon, bien sûr, si on n'examine pas de près cette affaire, on ne pourra pas modifier notre loi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'exprimer sur ce point.
Absolument. Donc, votre agresseur présumé se nomme Noriyuki Yamaguchi. Il devait être arrêté et puis son arrestation a été annulée à la dernière minute. Alors, il faut préciser que Noriyuki Yamaguchi est un biographe du Premier ministre de Shinzo Abe. Est-ce que le pouvoir politique s'est exprimé sur cette affaire ?
Une chose est certaine, c'est que ce journaliste, grâce à ses appuis, en très haut lieu, il a pu faire certaines choses. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai reçu beaucoup de menaces, menaces de mort, pas simplement parce que j'évoque une affaire qui renvoie à des problèmes sexuels, mais aussi parce que cet homme qui est visé, il est très proche du pouvoir. Et donc, tous ces gens du pouvoir m'ont vu comme un ennemi, ce qui n'était pas mon intention, bien sûr.
Y compris comme un ennemi politique. Et vous continuez, vous continuez votre travail judiciaire et la plainte est toujours en cours. Peu de femmes journalistes osent témoigner et s'engager. Elles sont pourtant nombreuses à être solidaires avec vous, mais la plupart d'entre elles le font anonymement. Qu'est-ce qu'elles risquent ?
What do they risk? Well, if it was a sexual harassment case, let's
alors,
say,
si c'est une affaire de harcèlement sexuel.
We had one of the biggest sexual harassment case happened last April.
Et il se trouve que l'année dernière, au mois d'avril, on a eu une très grosse affaire. L'ancien ministre des Finances a été accusé par une journaliste de harcèlement sexuel sans révéler son identité. Elle a déposé plainte sans révéler son identité. Pourquoi est-ce que ça se passe au Japon, ce genre de choses? C'est parce qu'en fait, nous n'avons pas de système qui protège. Il n'y a pas de loi qui va protéger les personnes qui veulent prendre la parole, qui vont dire « MeToo, moi aussi, m'est arrivé ça et ça ». La loi n'encadre pas ces cas de dénonciation de violences sexuelles. Donc les gens n'osent pas dire « bah moi aussi, MeToo ». Le sujet central, en l'occurrence au Japon, c'est vraiment qu'il y a, si vous voulez, un vide juridique chez nous qui fait qu'on ne protège pas suffisamment les personnes qui dénonceraient.
Et pourtant, en 2017, suite à la révélation de votre cas, la loi sur le viol a été modifiée. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle datait d'il y a plus de 100 ans. C'est une aberration juridique totale. Donc la définition du viol a été élargie. Elle ne concernait que les pénétrations vaginales et elle ne concernait que les femmes. Aujourd'hui, les hommes aussi peuvent être violés face à la loi. Ils peuvent être reconnus comme victimes. Les rapports oraux, les rapports anaux font partie des crimes et des délits. Les peines ont été alourdies, passant de 3 ans à 5 ans. Néanmoins, la loi n'évoque pas le problème majeur, c'est-à-dire la question du consentement, le fait que le viol concerne des personnes qui se connaissaient déjà et le fait que le viol ait eu lieu dans un lieu fermé. Or, si on reprend cette question du consentement, du fait que les personnes se connaissent déjà et du lieu fermé, on arrive en réalité, Shiori Ito, à la majorité des cas.
Yeah, that's right. To prove the rape, you have
bien
to
sûr,
show as a victim how much you fought back, how much you've been threatened.
C'est difficile d'expliquer comment on s'est battu, comment on a essayé de se défendre. Ça, ça fait partie vraiment de la définition du cas. Et ça renvoie à la notion du consentement. Le consentement est réputé admissible à partir de l'âge de 13 ans. Mais il n'y a pas de formation. Et les filles, les jeunes filles ne sont pas préparées, éduquées pour se battre, pour repousser les avances sous le harcèlement. Donc ça, effectivement, c'est un élément important dans tout le débat sur le consentement.
Vous avez décrit dans votre livre dans quel état physique vous étiez au réveil dans cette chambre d'hôtel. Et vous dites que vous aviez le corps couvert de traces, couvert de bleu, et que vous saignez. Est-ce que ça a été consigné à l'hôpital? Est-ce que ça fait partie de votre dossier comme des éléments qui montrent que vous avez probablement lutté ou en tout cas été victime de violence ou en tout cas été violenté?
Yes, the difficult thing is again as my case has been seen.
Ce qui est difficile encore une fois, c'est que c'est une affaire qui a été considérée comme quasi viol. Donc je ne peux pas invoquer ces blessures là. Et d'ailleurs au passage, je me suis fait très mal au genou et elle me dit si vous étiez inconsciente pendant ce qui s'est passé, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est lui qui a fait telle et telle chose? Donc, j'ai pas pu effectivement faire valoir ces arguments-là.
Je vous pose une dernière question, Shiori Ito, et puis si vous la trouvez trop intime, vous la laissez de côté. Comment fait-on pour vivre au quotidien avec quelque chose dont on ne se souvient pas? Comment fait-on pour vivre avec un trou noir? Et est-ce que finalement, on se bat contre soi-même pour que ce souvenir enfoui sous la drogue remonte?
Interesting. I never thought that way.
C'est intéressant. J'avais jamais vu les choses comme ça.
Well, because I do remember clearly.
Parce que je me souviens très bien de ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai ouvert les yeux. Cette douleur.
That's true. It still
scares me. C'est que j'ai encore peur.
Had lived this
aujourd'hui. J'ai encore peur à l'idée que j'ai vécu ces moments dont je ne me souviens pas. J'ai perdu le contrôle de mon corps, en fait. Et c'est difficile encore maintenant de reprendre, j'allais dire, la maîtrise ou le contrôle de moi-même. Mais la raison pour laquelle j'arrive à faire face et à vivre avec cela aujourd'hui, c'est parce que j'ai été fidèle à ma vérité. Je sais ce qui s'est passé ce soir-là. Et même si bien des gens ont dit après tout, si ça s'était passé, c'est parce que j'étais allée à tel endroit et que j'avais fait telle chose, impliquant que peut-être c'était de ma faute. Moi, ce que je sais, je sais que de toute façon, ça n'aurait rien changé que ça se passe ailleurs. Et à un moment, j'ai mis ma vie entre parenthèses, ma vie personnelle, certes, parce que rester au Japon, par exemple, après en avoir parlé, ça devenait compliqué, mais je n'ai jamais perdu l'espoir dans le journalisme. Je savais que si on pouvait vraiment s'en tenir à la vérité, si on pouvait être très clair quant à la nécessité d'avoir un débat sur ce sujet, je savais que j'allais pouvoir arriver quelque part. Et c'est ce qui s'est passé.
Merci beaucoup, Shiori Ito. Merci beaucoup. Et voilà, évidemment, je finis cette interview très émue. Merci pour votre courage et merci d'avoir eu le courage de dire et d'écrire. Votre livre s'appelle La boîte noire. Il est sorti en France aux éditions Piquier. Merci d'être venu en France nous raconter cette histoire. Merci beaucoup.
Merci. Arigato gozaimashita.
Arigato. Et puis merci aussi à Hélène Joguet, avec qui j'aime tant travailler. Elle était la voix française de Shiori Ito. C'est la fin de l'émission.